Je vous invite à lire un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Et le texte que je vous propose se trouve à partir du verset 31. Luc 18, verset 31. Jusqu'au verset 43. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera. On crachera sur lui, et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais aucun des disciples ne comprirent ce qu'il disait. C'était pour eux comme un langage caché, des paroles dont ils n'arrivaient pas à saisir le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Et on lui dit : C'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors, il se mit à crier : Fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant Jésus le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort : Fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus s'arrêta, ordonna qu'on le lui amène, et quand il fut devant lui, le regardant, il lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? Il répondit : Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue, et il suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, se mit à louer Dieu. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Il y a plus de 2000 ans, le spectacle était fréquent sur les chemins qui menaient à Jérusalem. On pouvait y voir des foules qui montaient vers la cité sainte, qui montaient vers le temple. Et toutes les grandes fêtes religieuses de l'année, la coutume voulait que cela se passe ainsi. Tous ces pèlerins prenaient leur disposition pour faire le chemin en compagnie d'amis, de parents, de voisins, de connaissances. La curiosité aidant, on s'insérait à des groupes qui entouraient un contemporain illustre. Et c'est ainsi qu'on se trouvait nombreux avec Jésus. C'est ainsi qu'on se trouvait nombreux avec ses disciples, les uns intéressés par les miracles qu'il faisait, les autres par ses paroles de sagesse, d'autres préoccupés plus sérieusement par la question de savoir s'il était vraiment le Messie. Dans l'histoire de la chrétienté, on a retrouvé l'usage de ces pèlerinages qui ont donc gardé ce nom. Aujourd'hui, d'autres manifestations supplantent parmi nous ce qui, hélas, n'était devenu dans l'Église qu'une tradition. L'homme moderne a inventé le carnaval. Le carnaval ne mène plus, nous le savons, vers les lieux saints, mais le carnaval s'applique bien au contraire à nous faire passer à côté, à nous mener là où se pratique le culte du plaisir, le culte du monde. Et ce n'est plus le Seigneur qui passe en ces jours de carnaval, dans ces cortèges excentriques, où tout est mis en œuvre pour que on l'oublie, lui, sa mort et sa passion. Et sous prétexte d'être un adieu à la chair, parce que c'est cela que veut dire carnaval, le mot carnaval vient du latin carnavalé, qui veut dire littéralement adieu à la chair. On ne fait que s'attarder le plus longtemps possible dans cet oubli, et les pèlerinages chrétiens ont été maintenant remplacés par le carnaval. Alors, vous le savez, il y a celui de Nice qui a commencé hier, il y a celui de Venise qui a commencé il y a quelques jours, et puis nous aurons droit au carnaval de Rio, bientôt à celui de Dunkerque avec ses harengs. Mais pour nous, chrétiens, pour nous, chrétiennes, le temps de Noël au Vendredi Saint doit être l'époque où nous voyons passer Jésus dans son abaissement, dans lequel il a consenti à mener sa vie afin d'être notre sauveur. Et les textes qu'on lit à l'Église et la prédication qu'on en donne le montrent allant de pays en pays, de ville en village, pauvre, méprisé, haï, annonçant la venue du royaume de Dieu, enseignant ses disciples, faisant des miracles. Et nous sommes là, un peu comme cet aveugle, assis au bord du chemin. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est celle-ci. Vas-tu, alors qu'il passe, le reconnaître? Vas-tu croire en lui? Vas-tu te précipiter sur lui, à l'exemple de cet aveugle? Vas-tu le suivre? Tout d'abord, dans notre texte, il s'agit de le reconnaître. Le reconnaître dans sa vérité et de croire en lui. Quand l'aveugle entend passer la foule, il demande « qu'est-ce qui se passe ?» Et quelqu'un le renseigne. Quelqu'un lui dit « c'est Jésus de Nazareth qui passe !» Mais quand il se met à l'interpeller, l'aveugle ne se contente pas de dire simplement « Jésus de Nazareth, aie pitié de moi !» Il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et il y a, qu'on le veuille ou non, dans cette manière d'interpeller le Seigneur, un élément très important de la vérité concernant sa personne. L'aveugle était israélite. Il connaissait l'histoire de son peuple. Il connaissait les promesses qui avaient entretenu ce peuple. L'attente du Messie. Il avait appris les Écritures à force de les entendre. Il les avait répétées. Il avait vécu, du moins par lui, il avait vécu les cultes. En tout cela, la parole de Dieu proclamait avec puissance qu'un jour viendrait celui que l'Éternel a promis, le Messie, qu'il délivrerait Israël et qu'il apporterait le salut. Il serait fils de David, roi comme David, mais roi pour l'éternité, selon la justice, selon la miséricorde. Et ce que notre aveugle avait entendu dire de Jésus depuis un certain temps, on parlait de lui depuis quelques années, avait donné à notre aveugle une certitude. Il est réellement le Messie. Il est réellement le Sauveur. Et cette certitude, c'est celle de la foi. Et c'est donc, frères et sœurs, un cri de foi que cet aveugle pousse au bord de la route. Fils de David, aie pitié de moi. Il y a en effet dans ce cri les deux choses essentielles de la foi chrétienne. D'une part, nous y trouvons l'aveu de sa profonde misère, aie pitié. Et il ne s'agit pas seulement pour cet homme de sa cécité, car ce qui se manifeste dans son cri, c'est tout ce qui fait sa misère. Et à son origine, il y a le péché qui rend mauvais et qui révolte la conscience. Dans sa réalité actuelle, il y a la corruption de la nature qui fait que l'être humain est parfaitement incapable de faire quelque chose de bien. Et il y a les conséquences qui sont les maux qui affligent, il y a la mort. Et ceux qui ressentent cette misère, ceux qui ressentent ce fait d'être irrémédiablement perdus, peuvent crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Il y a dans ce cri un espoir. L'espoir qui, au départ, n'est peut-être qu'une petite braise, mais qui bientôt va devenir une flamme puissante de certitude, une flamme puissante de foi. Jésus passe, et cet aveugle sait que c'est le moment, le seul moment qu'il a pour approcher Jésus. Peut-être qu'il ne repassera plus jamais par Jéricho. C'est le moment où Jésus passe. Il faut que je saisisse ce moment. Est-ce que nous comprenons réellement ce cri de foi ? Jésus passe. Et dans le cœur de l'aveugle surgit une certitude. Lui qui se sait dans son infirmité, lui qui se sait dans sa détresse corporelle, son incapacité foncière de se sauver, il sait que cet homme qui passe peut le sauver. Et il devient, au moment où passe Jésus, le croyant qui crie sa foi et que le Seigneur va entendre. Et dans cette foi, nous noterons tous qu'il se moque de ceux qui disent « Tais-toi, crie moins fort ». Il nous est dit, et l'évangéliste Luc le rappelle, ceux qui marchaient devant Jésus. Ceux qui marchaient devant Jésus avaient un rôle. Pousser la foule pour que Jésus puisse passer. Poussez-vous, poussez-vous. Taisez-vous. Et on a beau lui demander de se taire. Plus on lui demande de se taire, plus il hurle. Fils de David, aie pitié de moi. Alors, Jésus s'arrête. Il fait venir à lui le malheureux qui l'implore. Et il lui pose une question qui peut nous paraître surprenante. Que veux-tu que je te fasse ? comme si Jésus ne savait pas. Il veut simplement lui faire dire sa prière de foi jusqu'au bout. Puis, l'heure du miracle est venue. Il lui dit, « Recouvre la vue. » Et il ajoute cette petite phrase, « Ta foi t'a sauvé. » Il ne l'assure pas seulement de retrouver l'usage de ses yeux, mais l'œuvre de grâce, l'œuvre de salut est accomplie. Et dans cette partie de notre méditation, les chrétiens que nous sommes sont invités à apprendre. Certes, nous pouvons hésiter à nous identifier à l'aveugle. Probablement que nous estimons ce matin que nous voyons. Mais ne devons-nous pas reconnaître notre misère corporelle, nos maladies, nos malheurs et davantage encore. Cette sécheresse de notre cœur qui nous empêche de vivre avec joie la vie de la foi dont nous sommes appelés. Oui, pour nous chrétiens, peut-être que ce matin nous sommes assis là, au bord du chemin, au bord du chemin de ce monde, avec une vue courte, avec une foi qui faiblit, avec peut-être une foi qui menace de s'éteindre. Notre détresse, si nous voulons y faire face, nous la savons grande. Nous sentons toute la puissance du péché qui est en nous. Peut-être que nous nous estimons abandonnés. Et nous mendions auprès des passants qui ne peuvent rien pour nous. Et comme dit le psalmiste, nous avons peut-être l'âme abattue au-dedans de nous. Et pour y mettre le comble, on nous interroge. Il est où ton Dieu ? Il est où ton Dieu ? C'est ça l'Église ? Notre texte veut maintenant nous diriger sur un deuxième point, et je terminerai avec ce deuxième point. De l'aveugle qui recouvra la vue, il est dit noir sur blanc. Il suivit Jésus. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Mais où est-il allé avec Jésus ? Jésus est en route vers Jérusalem, mais pas pour se réjouir. Il monte à Jérusalem pour y mourir. La fête va prendre un tournant tragique, et Jésus le savait. Il en avait parlé avec ses disciples. Nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes vont s'accomplir. Au bout de son voyage, il y a la souffrance. Il y a la mort sur la croix. Et je dis, moi, qu'il n'est pas impossible que notre homme, cet aveugle miraculé, soit allé avec le Seigneur jusque-là, jusqu'au lieu de son supplice. Probablement que notre aveugle maintenant voit le Christ sur la croix. Et on peut se demander, mais est-ce qu'il n'a pas été réellement déçu ? N'avait-il pas en lui, tout aveugle qu'il était, une autre vision de Jésus, le fils de David? Peut-être qu'il espérait, en recouvrant la vue, voir un roi glorieux qui allait monter sur un cheval blanc, délivrer Jérusalem des Romains. Voilà ce qu'il espérait peut-être voir. Et ce qu'il voit maintenant, c'est un homme qui souffre, un homme qui va mourir. Un homme qui, peut-être, le pensait-il, allait redonner la liberté à son peuple. Et il y a un danger qui guette notre aveugle. Et le danger qui guette notre aveugle, c'est le danger qui te guette ce matin. Ce danger qui nous guette tous, c'est une cécité qui est pire que celle que notre aveugle a connue. C'est la cécité du doute, la cécité de l'incrédulité. Il arrive aux chrétiens de ne plus comprendre. Nous ne voulons mettre en question ni la justice de Dieu, ni la sagesse de Dieu. Mais nous nous posons la question, pourquoi faut-il que nous passions par des moments difficiles? Pourquoi faut-il que nous pleurions? Pourquoi faut-il que nous nous lamentions? Pourquoi souffrons-nous, Seigneur? Pourquoi veux-tu que nous allions au bout jusqu'à l'imitation du Christ dans cet abaissement qui peut-être remet tout en cause à nos yeux? Pourquoi, après m'avoir ouvert les yeux, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que je contemple ce que je vois? C'est peut-être, probablement, ce que tout le monde se pose ce matin. Pourquoi la croix reste-t-elle dressée pour les siens, alors que nous savons que la victoire est acquise? Et ce fut sans doute pour notre aveugle une école nécessaire, d'avoir à suivre Jésus sur le chemin qui l'a mené à Jérusalem. Et c'est aussi, je le crois, pour notre foi, une école nécessaire d'apprendre que la vie chrétienne, ça se vit, ça se décide. Tout n'est pas inscrit. C'est toi et toi seul qui dois inscrire ce que tu décides, ce que tu veux faire. Nous savons, parce que c'est écrit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous aimons Dieu. Et tout ce qui nous arrive, nous le comprenons comme étant pour notre bien. Le Seigneur veut nous façonner, et nous l'acceptons, et nous le suivrons, et nous ne l'abandonnerons jamais. Si le monde d'aujourd'hui, à l'exemple de la foule qui marchait devant Jésus, nous demande de crier un tout petit peu moins fort, de témoigner un tout petit peu moins fort, de parler de Jésus un peu moins fort, nous persévérerons avec plus d'insistance encore à proclamer notre détresse jusqu'à ce que nous ayons la victoire, parce que notre but, ce n'est pas que l'Église vive pour qu'elle vive. Notre but est clair: nous voulons que d'autres voient le Seigneur. Nous voulons que d'autres le suivent. Nous voulons que d'autres croient en lui. Aveugles guéris, nous marcherons ensemble sur ce chemin qui va au-delà de la mort et qui nous mène à la résurrection. Que nous puissions chanter notre prière et lui dire: Seigneur, je te suivrai partout. Nul espoir, nulle crainte ne me détournera de la route. Dirige mes pas, Seigneur. Par ton esprit, guide-moi. Je veux passer ma vie à te suivre, ô Jésus. Amen. Nous prions. Père, notre vie est entre tes mains. Toute notre vie est entre tes mains. Seigneur, si nous ne comprenons pas toujours pourquoi tu permets telle ou telle situation, nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu veux prendre soin de nous. Et nous te demandons, Seigneur, de nous accorder cette grâce de ne jamais nous éloigner de toi. Merci parce que toi, Seigneur, tu es toujours là. Merci, Père, pour cette vérité. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel. et nous voulons en retour nous tourner vers toi. Nous tourner vers toi, prendre ta main et marcher avec toi. Merci. Merci pour cette assurance et merci pour cette joie. Amen.